Mon sujet ce matin, il n'est pas circonstanciel, c'est quelque chose qui marque toujours la vie de l'Église et la marche chrétienne. Le monde s'agite beaucoup, ça, c'est pas nouveau, mais il y a des accélérations. Certains disent que ça a toujours été comme ça. Alors à la fois l'Ecclésiaste nous le dit, ce qui a été, c'est ce que sera, mais il y a une accélération, tout devient trépidant. Tout devient interactif 24 heures sur 24, ce qui provoque d'ailleurs des épuisements de bien des gens, parce que le Dieu qui nous a créés est un Dieu qui a mis des jours, des mois, des années. C'est un Dieu qui a un rythme et qui sait qu'on a besoin d'un rythme. Hein. Donc le monde s'agite beaucoup. Ça, c'est comme ça. Le problème, c'est que les milieux chrétiens aussi sont tentés d'emboîter le pas. De plus en plus, il faut faire, il faut aider, le monde va mal. La solidarité est prônée dans tous les cas. Les chrétiens doivent s'impliquer dans la société et agir au nom d'être sel et lumière. D'autres, en réaction, alors on ne sait plus d'ailleurs qui réagit à qui, sont tentés par un repli. Un repli, on pourrait presque dire, identitaire, ou même vers des communautés. Hein ? Le Seigneur nous invite à la communion fraternelle. Mais dans tout ça, quelles sont nos motivations ? C'est un sujet où la parole de Dieu nous éclaire pour peu qu'on la considère dans son ensemble. Hein ? C'est un grand sujet aussi, ça. On bâtit des doctrines, des mouvements sur une phrase de la Bible. Ce matin, je souhaiterais que nous puissions considérer un certain nombre de thèmes. J'ai intitulé mon message « Activité, service ou agitation ». Et en sous-titre, je mettais « diligence »,« zèle ou passivité »,« paresse », oh là, sujet difficile, « adoration » ou « fuite du réel par peur hein ». Alors, je vais commencer pour ce message, comme d'habitude, je ne serai pas exhaustif, mais on va partir du texte, un texte qu'on connaît bien. Je me suis souvent posé la question de parler sur ce texte. C'est le texte, le séjour de Jésus chez Martha, la sœur de Lazare et de Marie, parce que ce texte nous interpelle sur ce thème, Jésus nous interpelle directement sur ce thème, service ou agitation. Et c'est pas très facile. Alors on va le lire, et puis ensuite j'aborderai un peu quelques contrastes. Y a-t-il en nous de la passivité, de la paresse, ou au contraire un zèle, une diligence. Hein, diligence, ça veut dire quelque chose de... j'ai regardé la définition de diligence, c'est quelque chose qui est assez rapide, quoi, hein, c'est déterminé, ça avance. Et puis on regardera aussi, dans le fond, est-ce que notre vie, on vit ce qu'on a à vivre, hein, la parole nous dit, ce que ta main trouve à faire, ben fais-le. Ou est-ce qu'on a des plans très, très élaborés, hein, voilà. C'est quelques thèmes comme ça, ce ne sera pas exhaustif. Alors, je vous invite à prendre dans Luc, au chapitre 11, pardon, au chapitre 10, les versets 38 à 42. Un texte assez court. Donc, on va déjà examiner ça un peu, ce qui se passe là. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alors, je pense que dans une assemblée comme la nôtre, en première analyse, comme ça, en premier abord, il y en a qui vont se sentir plutôt pour Marthe et qui sont en train de se dire « Elle a bien raison. » Et puis d'autres, sentir plus Marie, en première analyse, hein, parce qu'on va creuser un peu quand même. Mais non, c'est Marie qui a choisi la bonne part. On connaît le Seigneur, il faut l'adorer, il n'y a que lui qui compte, etc., etc. Alors, ça vaut le coup de creuser un peu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Marthe, notez-le bien quand même, parce qu'on va voir aussi des reproches que ce que dit Jésus à Marthe. Marthe, elle accueille dans sa maison. Ça commence comme ça. N'oublions pas que Jésus se déplaçait, il ne se déplaçait pas seul. Et je ne sais pas si vous accueillez dans votre maison, mais quand on est invité, il faut s'en occuper quand même. Il faut aller faire les courses, faut préparer la cuisine, faire un peu de ménage, ou beaucoup, ça dépend des goûts, hein, on peut se contenter, mais enfin un petit peu quand même, c'est aussi honorer ce qu'on reçoit. C'est un travail d'accueillir, c'est pas rien. Hein. Elle accueillait dans sa maison, et donc elle se déplaçait, on le voit dans d'autres textes, hein. Elle s'est déplacée avec ses disciples, Jésus se déplaçait avec ses disciples, bien souvent, je ne sais pas s'ils étaient tous ensemble, mais on voit à plusieurs reprises qu'il y a des gens qui avaient ça à cœur. Il y avait des femmes de distinction qui honoraient Jésus de leur bien, parce que aussi ça coûte, même si on fait simple. Hein, voilà. Donc, Marthe accueille. Je vous dis tout de suite, ce texte, je vais le prendre un peu dans les deux sens aussi, hein, parce que on peut voir, lire ça vite fait, puis Marthe n'a rien compris, c'est vraiment pas spirituel cette femme. Comment on va s'en sortir, hein? Elle accueille le Seigneur, elle le connaît, elle l'appelle Seigneur. Hein. En tout cas, elle sait que c'est un prophète puissant en acte, sa renommée est déjà établie. Et le fait que Marie soit assise à ses pieds indique que c'est aussi un maître. Hein. Dans la culture de l'époque, être assis aux pieds, on va voir que Paul a été élevé et enseigné aux pieds de Gamaliel. Donc c'est une attitude, certes de respect, mais aussi c'est vrai qu'elle était enseignée. Hein. Jésus est un enseignant. Donc une femme qui accueille dans sa maison, ben, elle souhaite honorer ses invités. Et c'est incontestablement, Marthe était à la fois honorée de la venue de Jésus et de ses disciples, et puis elle voulait les honorer, vraiment de tout son cœur. Je crois qu'on ne peut pas douter, le texte ne nous permet pas de douter de ça. Et elle met tout son cœur à préparer la maison, nettoyer, etc. Marthe est donc occupée, ça semble être sa place à ce moment-là, à divers soins domestiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment, on ne va pas dire répète les plombs, mais quand même, on sent que ça, il y a eu une pression, et là, il y a eu un coup de cocotte minute qui est parti. Hein? Le texte nous dit, elle survint et dit. Ça veut dire qu'avant de survenir et de dire, il y a des choses qui s'étaient passées. Alors, je ne veux pas aller au-delà du texte, mais, bon, moi, ce n'est pas des choses qui me sont arrivées, donc ce serait que de l'imagination. Mais peut-être, il y a dans l'Assemblée des gens à qui cette situation-là, ça parle. Et puis, c'est peut-être arrivé. Alors, je ne veux pas dire j'imagine, mais examinons. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Tout commence bien. Marthe est heureuse de recevoir le Seigneur. Son programme, son menu sont prêts. Les courses sont faites. Le Seigneur arrive, on le reçoit. Jusque-là, tout va bien. Marie s'assied au pied du Seigneur. Pourquoi pas ? Mais au bout d'un certain temps, quelque chose commence à venir dans le cœur de Marthe. Hein? Une pensée telle que, juste une petite pensée comme ça, pourrait quand même m'aider Marie. Hein? Et après un temps, voyant que rien ne bouge, les pensées se tournent cette fois-ci vers l'enseignant, qui est quand même responsable parce qu'il continue de discourir, tandis que la marmite, il faut préparer, les faire chauffer les assiettes. Le maître, le Seigneur pourtant, mais ça monte, ça monte. Et le reproche jaillit avec force. « Ça te fait rien, toi, Jésus, que Marie soit là, rien glandée ?» Ça va plus loin. Elle commande au Seigneur. « Dis-lui donc de m'aider. » Vous voyez, on sent. Bon, voilà, hein, je ne vais pas insister. Et le Seigneur va reprendre Marthe sur deux choses, et peut-être même sur trois. Le Seigneur ne reproche pas à Marthe de s'occuper des diverses tâches domestiques. Pas du tout. Il lui reproche, enfin, il lui dit, en tout cas, un petit reproche. Tu t'inquiètes et tu t'agites, d'une part. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Alors, on va dire, les chrétiens n'ont pas le droit de s'inquiéter. Si, Paul, je vous signale, était pris par les soucis que lui donnaient les églises. Je pense que Dieu ne lui a jamais reproché. Mais tu t'inquiètes et tu t'agites, pas pour une ou deux choses, pour beaucoup de choses. Donc il y a vraiment chez Marthe quelque chose qui l'envahit et qui l'empêche finalement de vivre de vivre la présence qui l'avait réjoui, la venue du Seigneur. Et ça, ça commence à nous parler. Et puis, il y a autre chose. Il y a autre chose derrière, là. C'est que ces deux sœurs, et là, il y a des mécanismes qui se mettent en route. On sait que dans les familles, faut pas se cacher, j'ai souvent dit, il y a plein de positions dans les familles, l'aîné, ceux qui sont au milieu, ceux qui sont à la fin, il y a toujours un petit problème et une difficulté. Celui qui a été au début a porté beaucoup, souvent, ou il a été idolâtré, ou des fois les deux. Celui qui, à la fin, il se demande s'il a été désiré, ceux qui sont au milieu ont l'impression d'être pris entre deux. Enfin, il y a toujours un problème, parce que notre besoin d'être aimé tellement et d'être reconnu est tellement énorme qu'on trouvera toujours quelque chose qui ne va pas. Je ne parle pas à la légère, c'est vrai, c'est le fruit de la chute. Les parents investissent avec leur cœur sur ce qu'ils n'ont pas réussi, ils voudraient que les enfants le réussissent. Enfin bon, il se passe tout un tas de choses. Et donc ça crée entre les frères et sœurs des choses, ça se révèle plus ou moins. Il y a des vies qui peuvent se passer sans que ça soit manifesté, mais ça a pourtant structuré des vies. Et Marthe, sans doute, a peut-être une petite pointe de jalousie. Elle voudrait bien aussi être auprès d'elle. Mais il y a une force en elle qui dit, moi, il faut que je travaille. J'ai, dans mon entourage proche, je vais le dire, une sœur, quand nous avons les réunions de famille, bon, elle a vieilli maintenant, donc elle peut moins jongler, mais on faisait un repas, tout se passait bien, elle était contente, c'était chez elle. Et puis alors, c'était les réveillons de premier de l'an. Et alors, à un moment, elle quittait la table et elle se mettait à faire la vaisselle. Bon, elle fait ce qu'elle veut. Ça, c'est pas le problème, à la limite. Si ça lui plaît, dans le fond, qu'aime bien que ce soit rangé, etc. Le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, ça faisait le syndrome de Marthe. Oui, mais de toute façon, il n'y a que moi qui fais la vaisselle, machin, etc. Bon, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit, on ne me reconnaît pas, et pourtant, avec tout ce que j'ai fait, etc. Je ne prends pas à la légère, je ne me moque pas. Mais ça traduit des souffrances profondes et des jalousies. Des jalousies, les autres ne font rien, et moi. Et ça, c'est le deuxième point. Que Jésus dit à Marthe, il ne lui dit pas t'as tort, non. Il lui dit, pour ce qui concerne Marie, elle a choisi la bonne part. Il ne lui dit pas qu'elle devrait aider, pas aider. Ce n'est pas ça le sujet pour l'instant. Il dit, elle est là. Et pour l'instant, là, elle est à sa place. Elle a choisi la bonne part, elle ne le sera pas retirée pour te satisfaire. Et Jésus laisse Marthe un peu avec ça, quand même. Ce n'est pas la suite, mais il laisse Marthe avec ça. Elle va avoir de quoi mûrir. Alors, on peut... Ça me fait penser quand Jésus va dire à Pierre... qui dit, mais Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? Ne t'inquiète pas, toi, suis-moi. Les appels, les rôles, et on va le voir pour Marthe, j'en dirai quelques mots en conclusion. Je pense qu'elle était à sa place dans ce service d'accueil et d'hospitalité, c'est manifeste. Mais on va voir plus tard, à la conclusion, qu'elle le fera plus tard d'une autre manière. Hein? Alors, c'est mon texte un peu de base. On pourrait dire, bon, ben voilà, on s'en tient là. Faut pas trop s'exciter, faut pas trop ça... l'action, c'est un peu secondaire. Rechercher d'abord le royaume de Dieu, c'est vrai que le Seigneur nous le dit. D'abord veut dire d'abord. Et les autres choses vous sont données, mais vous avez aussi d'autres choses à faire. La priorité, c'est vrai que c'est la clé, rechercher d'abord... Le royaume de Dieu, la présence du Seigneur, on l'a chanté dans nos chants et c'est extrêmement important. Mais je vais retourner aussi un peu les choses. L'écoute de Dieu, être dans la présence de Dieu, n'implique pas la passivité ou l'inactivité pour les choses terrestres. Voir, nous sommes encouragés à faire ce que notre main trouve à faire et à faire comme pour le Seigneur. Romains 12, verset 11, nous dit « Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse. » Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, des choses spirituelles, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérer dans la prière et tout le programme de la vie chrétienne, pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Il y a tout un programme. Notre être tout entier est impliqué dans notre relation avec le Seigneur. Alors, je voudrais m'arrêter un petit peu sur passivité paresse ou action diligente. Hein ? Vous savez que la paresse est un sujet qui est abondamment abordé dans la Bible, et notamment dans les Proverbes. Je ne vous donnerai pas toutes les citations, mais je vais vous en donner quelques-unes quand même. Dans Proverbes 12, le verset 27, il est dit « Le paresseux ne rôtit pas sa chasse, mais les biens précieux de l'homme sont aux diligents. » Le paresseux ne rôtit pas sa chasse. La chasse, c'est quand même quelque chose qu'on cueille sans y avoir travaillé. Bon, tirer une flèche quand même. Ce n'est pas du produit d'élevage. Eh ben, le paresseux, il n'a même pas envie de le cuire. Mais les biens précieux de l'homme sont aux diligents. Le diligent, c'est celui qui agit avec détermination et rapidité. Hein ? Et voilà, il agit à un moment. Proverbe 13, verset 4, nous dit « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. » Eh oui, il a des désirs. Mais comme il ne met pas grand-chose en œuvre, « Seigneur, tu pourvois. » Oui, enfin, le Seigneur dit aussi que celui qui ne veut pas, je précise toujours, qui ne veut pas travailler, qui a les possibilités, mais qui ne veut pas, eh bien, le Seigneur nous amène à une cohérence. Tu ne veux pas travailler, mais tu ne manges pas non plus. Je suis très précis, parce qu'évidemment, ce n'est pas facile, ces sujets-là, mais si par contre, pour un temps, tu ne peux pas, ouais, il y a des régimes de protection, ben oui, c'est bien. Hein, il y a le Seigneur, dans sa bénédiction générale, pour les justes et pour les injustes, pour les bons et pour les méchants, fait que, et c'est notre cas, nous vivons dans un pays où encore, un petit peu, il y a des protections, des filets. Les natifs du pays disent « tout se barre en vrille, il n'y a plus de protection ». Ceux qui viennent d'autres continents disent « ouh, c'est le paradis, même avec peu ici ». Alors, bon, examinons chaque chose. Et intéressant, le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. C'est-à-dire, tout devient problème. Mais le sentier des hommes droits est aplani. Si je fais ce que ma main trouve à faire dans une situation, et des fois même je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, mais une situation se présente, bon, allez, Seigneur, je fais un pas. Vous allez voir, Seigneur, il aplanit les autres pas. Et il va clarifier. Peut-être ce n'est pas tout à fait la bonne direction. Mais si je fais le pas que j'ai à faire, le Seigneur, il va clarifier. Il va placer d'autres circonstances. Philippiens 2, verset 12, nous dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, ah, ça c'est encore un petit domaine, non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » Je pense que plusieurs ont expérimenté ça. Il y a des moments, des choses, ça nous paraît impossible, même dans la vie pratique. Et puis, Seigneur, vraiment, si vraiment on dit, Seigneur, je veux faire ta volonté, je prends ma vie, etc. Il va placer, et vous allez expérimenter un moment, vraiment, il produit en nous le vouloir une offre. Il y a un entrain qui n'est pas une espèce d'enthousiasme excité, mais un entrain pour faire les choses. Et puis, il ouvre dans des choses très, très pratiques. Il va ouvrir une chose. Je pensais l'autre jour, nous avions labouré notre jardin et on n'avait pas le matériel pour ensuite. Il faut hercer, il faut préparer avant de planter. Et le voisin, nous étions à travailler avec quelques frères, et le voisin passe, il voit du monde, il rentre et il se présente. Il est agriculteur, on parle. Il y avait Grégory, là. Je me suis réjoui. Ils ont parler. Il y a des choses qu'ils connaissaient bien ensemble, sur l'élevage de certains animaux. Et puis, je lui dis, ben oui, j'ai labouré le champ, mais je n'ai pas ce qu'il faut pour... Oh, ben, j'ai une herse rotative, je vais venir. Il est venu, oh, ben, il avait un gros truc, lui, hein, ça a été vite. Vous allez me dire, ben, c'est un détail, étant Robert, t'es dans les choses pratiques. Oui, mais je vais vous dire, ça encourage. Parce qu'on dit, tiens, un petit clin d'œil, le Seigneur est là, il dit, continue ton chemin, tu vas bien voir. Et on a plein de choses, on vit plein de choses comme ça. Je crois qu'on le vit, je vais vous donner tout à l'heure un exemple. Donc, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son plaisir. Selon son plaisir, il sait lui comment il nous a fait, comment il nous a tricoté. Il connaît tous nos talents, tous les dosages qu'il a mis. Il sait ceux avec qui il va nous mettre pour compléter ce qui est un peu faiblard chez nous. Il va nous mettre quelqu'un à côté. Et si on s'est tout seul, la partie qui nous manque, elle va nous manquer. Mais si on a celui à côté qui, allez, vas-y. Ou des fois, bon, moi, ce serait plutôt, doucement, mon gars, là, un peu. Doucement. Eh bien oui, mais on a besoin. Sinon, on va s'épuiser, ou on va tomber dans une léthargie. Non, mais c'est ça, hein, c'est très concret. Et il dit, puisque c'est lui qui me produit en vous le vouloir et le faire selon son plaisir, faites toutes choses, donc, sans murmure ni hésitation. Et une autre traduction, intéressant, dit sans murmure ni dispute. Effectivement, l'hésitation à la fin, ça peut amener de la dispute. À un moment, il faut quand même trancher. J'ai envie de dire bien ou mal, Yves lui a dit, des fois on fait des erreurs. Mais à un moment, sinon, on ne sait plus. Hein. Voilà. Afin que vous soyez sans reproche, sans tâche, enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée et perverse, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, y portant la parole de vie. Je voulais dire une dernière chose sur cet aspect de la paresse. Je crois que la paresse peut parfois manifester une révolte sur ce que l'on considère comme une injustice. Ça peut naître d'une comparaison conduisant à une exigence. Pourquoi c'est facile pour lui et pas pour moi? Et finalement, un refus de grandir. Mais parce que lui, c'est pas toi. Donc, perds pas ton temps à comparer, parce que lui, c'est pas toi. Et je peux vous dire qu'on peut perdre du temps. J'ai compris après que le Seigneur ait visité ma vie, combien j'avais gâché du temps. On ne garde pas, au lieu de regarder à ce que le Seigneur nous a donné. Et s'il nous a donné, il sait quoi en faire. Est-ce que je vous parle de ça? Oui. Faire ce qui se présente à nous. Donc, vous voyez, je crois que c'est important. La paresse, c'est quelque chose qui peut venir et qui, de toute façon, n'est pas bonne. Donc, avançons avec les éléments qu'on a. Et puis, le Seigneur éclaire. Et puis, ça fait une expérience. Et puis, il assemble tout ça. Puis, on discerne de mieux en mieux. Ce qui est important, c'est l'état de notre cœur. C'est l'état de notre cœur. Et même l'expérience de Marthe, on va le voir, elle lui a servi. Quand c'est sorti, là, elle ne pouvait pas dire que ce n'était pas sorti. Elle a bien dû comprendre qu'il y avait un truc qui n'était pas terrible dans son cœur. Ça va lui... ne soyons pas abattus. On s'humilie, on dit, Seigneur, hein, je vous rappelle le moteur de temps, la repentance et la foi. Seigneur, bon, bah, c'est encore raté. Mais Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et tu vas me montrer comment faire. Deuxième thème que ça m'amène à traiter, ce qui se présente à nous plutôt que des projets ficelés par nous. Ça, c'est important. La vie quotidienne implique des obligations quotidiennes à accomplir avec régularité. C'est parfois monotone. C'est toujours la même chose. Mais toute la création est sur ce modèle. Il y a les jours, les mois, les années, et qui reviennent. Et l'Ecclésiaste nous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Mais ce n'est pas un fataliste, mais un garde-fou aussi contre l'orgueil. Nous sommes la créature, il est le créateur, il nous a placés, c'est lui qui a donné le cadre. Les jours, les mois, les années. Proverbe 27 aussi, toutes choses ne sont pas pareilles. Le Proverbe 27, les versets 26 et 27 nous dit, les agneaux sont pour le vêtement et les boucs pour payer le champ. Le lait des chèvres, le quotidien, suffit à ta nourriture et à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Vous noterez quand même qu'il y a des servantes. C'est-à-dire que il y a un temps pour chaque chose. Le problème souvent de l'endettement inconsidéré. Je parle avec sérieux de cette affaire-là. Quand Daniel est venu, il nous a dit ce qu'était la pauvreté. C'est la satisfaction des besoins élémentaires qui n'est pas là. Mais beaucoup de situations sont des situations où matériellement, il y aurait ce qu'il faut pour couvrir les besoins. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un certain nombre de désordres? C'est qu'on ne respecte pas, par exemple, Proverbe 26, 27. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne paie pas des choses du quotidien en faisant des emprunts à 20 ans. Sinon, je vais rapidement avoir un problème. Quotidiennement, je fais avec ce que j'ai. Voilà. Et puis, si le vêtement, les agneaux pour le vêtement, ça veut dire quoi? Ben, les bêtes, je vais la vendre. Hein, c'est des choses qui se produisent annuellement pour changer mon vêtement. Alors, je ne dis pas qu'il faut acheter les vêtements qu'une fois par an. Ce n'est pas ça. Mais enfin, un vêtement, ça s'use moins vite que si on consomme la nourriture. Et le bouc, c'est pour acheter le champ. Le bouc, c'est celui qui fait de la reproduction des agneaux. C'est un investissement à long terme. Eh bien, on doit respecter ça aussi dans nos vies. Acceptons notre condition aussi d'une vie qui est inscrite dans le temps. Donc, ce qui se présente à nous, je vais prendre un exemple. Le texte de Marthe et Marie, là, est précédé du texte sur le Samaritain. Vous savez, l'homme qui est tombé. Il nous est dit, par exemple, c'est un bon exemple, le Samaritain, dans Luc 10, les versets 33 à 36, « Mais un Samaritain passant son chemin vint vers cet homme. » Le Samaritain étayait sa route, il était à ses affaires. Ce que je veux dire par là, c'est que faisons notre vie et vivons notre quotidien, j'allais dire tranquillement, Dieu est assez puissant pour placer des circonstances qui vont peut-être un peu désorganiser notre quotidien. Mais ne cherchons pas nous-mêmes à mettre le désordre dans nos vies, soi-disant, pour faire la volonté de Dieu. Marchons, le Seigneur place une circonstance et il place, tiens, quelqu'un qui est tombé là, sur la route. Et là, il nous interpelle. Pas comme nous, on avait prévu. Ah, moi, je vais faire telle bonne action, etc. Un manque de peau, là, c'est pas celui que tu aurais voulu secourir. Mais le Seigneur va le placer sur ta route. Donc, vivons notre quotidien. Le Seigneur est assez puissant pour organiser nos circonstances pour des choses petites, mais aussi pour de grandes choses. Je vais prendre d'autres exemples. Pierre et Jean se rendent au temple comme chaque jour. Et quelque chose se passe, il y a un paralytique qui est là, à la porte. Ils le guérissent, et cela déclenche une intervention des religieux et des circonstances, de circonstances en circonstances. Pierre va être amené à refaire un deuxième discours de Pentecôte, j'allais dire, où de nouveau, des milliers d'âmes vont être touchées. Et pourtant, il faisait quoi? Il allait au temple comme chaque jour avec Jean, et là, le Seigneur leur montre. Leur montre différemment, peut-être il l'avait déjà vu. Leur montre différemment. Faisons ce que nous avons à faire. C'est dans la tranquillité et le repos. Pas dans la passivité, la tranquillité et le repos qui conservent l'énergie. La passivité, les machins, épuisent. Tranquillité et le repos. Et le Seigneur pourvoit, nous amène des orientations nouvelles, on les saisit. Mais reconnaissons que là, on est interpellé, il y a des moments. Mais on sait dans le fond du cœur ce qu'on a à faire. Hein, je ne développe pas la parabole de l'homme qui était tombé sur la route, mais on voit toutes les attitudes possibles. En tout cas, ce Samaritain, il traçait son chemin, il s'est passé ça, il a changé de vie. Pierre et Jean, donc. Paul. Paul, dans la lettre aux Corinthiens, nous manifeste, nous fait part de son désir d'aller à Rome. Il a reçu ça, qu'il doit aller à Rome. Mais la manière dont il va s'y rendre, le moins qu'on puisse dire, n'est pas selon un programme humain. En retour d'une tournée, il se joint à un groupe de Naziréens, il entre au temple, et à la demande des anciens de Jérusalem, qui lui disent, bon, tu as prêché des choses, c'est très bien, mais tu comprends, il y a toujours le problème des Juifs convertis. Donc, ce que tu vas faire, tu vas aller avec des frères là, qui ont fait un vœu, etc. Tu vas aller au temple, et puis, etc. Paul obéit. Le grand Paul, on pourrait dire. Il obéit et il fait ça. par tout un jeu de circonstances, les Juifs le voient avec un Grec, ils pensent qu'il est au temple avec un Grec, ce qui est un scandale, il y a une émeute, ils le font arrêter, le voilà arrêté sous haute protection, mais sous haute protection de l'armée romaine. Gravissant les marches du temple, il dit, est-ce que je peux parler à l'armée romaine, qu'ils l'ont arraché de la mort, hein, parce qu'il aurait été pilonné, là, lui permettre de parler, ça va jusqu'à un certain temps, ça va encore plus fort, ils le mettent à l'abri, et là, il déclare sa citoyenneté romaine, et ça déclenche tout un système judiciaire qui le conduira finalement devant Félix, puis Agrippa, et finalement, Agrippa, voyant qu'il n'y a rien à faire, il dit, bon, il aurait pu être relâché, mais comme il a demandé, il est citoyen romain, il a demandé à aller devant César, il ira devant César, et voilà comment Paul va être embarqué pour Rome. Vous avouerez que ça ne ressemble pas beaucoup à la tournée d'un grand ministère qui a tout planifié, etc. Il a eu dans son cœur, c'est vrai. Mais la façon dont Dieu va faire, il va aller à Rome comme prisonnier, s'il vous plaît, sur un bateau où, alors qu'il avait reçu des choses prophétiques qui auraient gardé les choses, il va se trouver dans un naufrage, etc., etc., etc. Mais regardez ce qui s'est passé, il était à Rome, voilà. Donc, Paul, il taille sa route. On pourrait donner d'autres exemples. Donc, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir. Je n'ai pas tout à fait bien analysé cette phrase-là. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le sépulcre où tu vas. Ça, c'est effectivement dans l'Ecclésiaste. L'activité est bonne pour l'homme. L'activité est bonne pour l'homme et la femme. Pas les mêmes activités. Je vous redonne quelques versets de l'Ecclésiaste. Jette ton pain sur la face des eaux et avec le temps tu le retrouveras. Fais-en part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel mal peut venir sur la terre. Quand les nuées sont pleines, elles répandent de la pluie sur la terre. Quand un arbre tombe au midi ou au nord, au lieu de l'ombre est tombé, il demeure. Celui qui observe le vent ne sèmera point. J'aime bien ce verset aussi. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuées ne moissonnera point. Alors, vous voyez, c'est un paradoxe de la marche chrétienne. C'est vrai qu'il faut être attentif, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut apprendre à écouter Dieu. Mais par-dessus tout, notre responsabilité, c'est que ce qu'on fait dans notre cœur, ce soit au clair. Et là, on se trompera peut-être, mais le Seigneur nous rattrapera. Vraiment, le Seigneur nous rattrapera. Et il y a des fois, on fait, je pense dans le témoignage, moi c'est quelque chose qui me touche. On voudrait tellement voir des résultats. On ne sait pas, et là c'est vraiment valable pour ce qui est du témoignage, le Seigneur nous demande d'annoncer la vérité, d'annoncer à l'homme à la fois la perdition, le plan du salut et l'amour de Dieu pour lui. Faisons-le sur la base de la parole. Ce n'est pas nous qui convertissons. Et peut-être on ne verra pas de fruits pour certains. Que cela, pas fruits visibles au sens d'une conversion et d'un grand ministère, ce n'est pas notre problème. Hein? Donc, marchons notre quotidien. Et croyons, la parole nous le dit, que Dieu est puissant pour donner des orientations. Par contre, reconnaissons-le dans toutes nos voies. Il est certain, Yves nous le rappelait, lorsqu'on est en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Notre pensée est renouvelée. Il y a une métanoïa, il y a une conversion qui nous fait regarder toutes circonstances de manière différente. Il est sûr que le chrétien... Le Seigneur lui demande de considère le Seigneur dans toutes tes voies. Il n'y a rien, par contre, qui n'arrive que lui n'ait ordonné. Donc, on doit être attentif. Il nous parle aussi beaucoup par les circonstances. Il nous parle par sa parole. Là, on est sûr de ne pas se tromper, même ça, à la limite. Il nous met on parle beaucoup de feu vert et de feu rouge. Il y a des choses très claires dans la parole. Je vais vous dire, déjà avec ça, on ne risque pas de partir dans des choses délirantes. Et puis, il affine, il nous parle à chacun. Après, il y a des choses très personnelles, hein, de révélation. Donc, nos projets ficelés, la parole nous éclaire là-dessus. Il y a des pensées en grand nombre dans le cœur de l'homme, mais le conseil de l'Éternel est immuable. Une autre traduction dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc là-dessus, il y a à la fois un encouragement et puis, je veux dire, un avertissement. Je veux dire par là que un encouragement, faisons, le Seigneur va nous reprendre, etc. Mais écoutons un peu, on n'est pas obligé de refaire 12 fois les mêmes erreurs. On n'est pas obligé de tourner 40 ans en Canaan, dans le désert. On n'est pas obligé.
Des fois,
on a la tête dure. Jacques 4, verset 13, va nous dire, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. » Ce n'est pas l'Ecclésiaste, c'est Jacques, là, hein, et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, « Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Mais maintenant, vous vous glorifiez de vos pensées orgueilleuses. Écoutez bien, si vous devriez dire ceci. Si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Dieu ne nous dit pas, nous paralyse pas comme ça. Seigneur, il y a l'attitude de cœur, de crainte, de soumission. Seigneur, écoute, on a le droit de penser avec le Seigneur. Hein. Non, mais on a le droit de penser. Mais Seigneur, écoute, ben voilà, là où j'en suis, éclairé comme je suis, je le sens. Eh bien, fais un pas, puis tu vas bien voir. Mais maintenant, vous vous glorifiez de vos pensées orgueilleuses. Voilà le reproche. Car c'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire le bien, faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Ben voilà, quelque chose de tout simple. Hein, qui rejoint, je disais, ce que ta main trouve à faire avec ton pouvoir. Ce que tu sens que tu dois donner selon... le Seigneur ne demande pas qu'on donne et de se dépouiller soi-même. Il trouve que ça ne l'honore pas, ça. C'est très religieux. « Oh, moi, j'ai donné, moi, je me sacrifie !» Tu parles, mais on ne te demande pas ça. Attendons, c'est le Seigneur qui va montrer la circonstance. Quand tu seras mûr, il ne va pas te demander ça aujourd'hui parce que tu n'es pas mûr. Mais un jour, aujourd'hui, tu vas où tu veux, mais un jour, un autre te scindera et tu iras où tu ne veux pas. Mais accepte les étapes. Accepte quand quelque chose se présente, de dire, ben écoute, Seigneur, voilà, ça je peux faire ça, ben je le fais. Voilà. Ça, c'est clair, cette parole. Hein, je, rapidement, faire fructifier nos talents et nos dons pour l'utilité commune. Faire fructifier nos talents et nos dons, je ne développe pas trop, c'est de voir Dieu nous donne des choses. La parabole des talents, il reprend sévèrement et presque en condamnation celui qui ne va pas les développer. Mais là aussi, je vais le dire, mais beaucoup de choses tordues aujourd'hui. On veut attirer les gens, par exemple, au Seigneur en disant « Oh, venez !» On va leur expliquer aux gens tout ce qu'ils ont de bon en eux, etc. Ça va être compliqué après pour annoncer le message du salut. Tu as plein de talents, tu as plein de qualités. Après, un chrétien qui a reconnu sa misère, s'est converti et qui est pris sous la culpabilité, alors là, celui-là, il faut lui dire « Mais attends, et oh !» Ça a été rappelé tout à l'heure. Ça y est, ça a été purifié, c'est nettoyé. Maintenant, le Seigneur, il t'a donné des choses, mets-les en œuvre. Mais l'inconverti, c'est pas la peine de le caresser comme ça. Il le sait que trop, tout le monde entier est en train de dire « On est talent, on est beau, on est etc. » Comment vous allez annoncer le message du salut après? Et qu'on est perdu et qu'on a besoin d'être sauvé? Je dis pas qu'il faut prêcher l'enfer. Je dis qu'il faut être vrai. Il faut annoncer Jésus-Christ. La puissance de l'évangile pour ceux qui croient. Mais il ne peut pas y avoir de nouvelle vie sans une repentance, une libération de notre misère par la reconnaissance de notre misère et la réception du salut en Jésus-Christ. Enfin, je voudrais, pour encourager, dire que Dieu désire nous guider et nous protéger, et si on n'est pas sur la bonne voie, il nous arrêtera. Paul, lors de son deuxième voyage, vous avez des projets, parce que Paul a des projets, c'est un homme qui a de l'énergie, hein, qui a été changé par le Seigneur, mais il n'en a pas fait une lavette. Il a fait quelqu'un qui a de l'énergie et des projets, et simplement à un moment, l'Esprit les empêcha d'entrer dans tel pays. Je discutais avec un serviteur de Dieu, Raoul Mazel, pour Panonner, on avait un échange quelques temps, là, et bon, parler de gens, de missionnaires qui avaient été et qui revenaient avec vraiment beaucoup de problèmes de santé. Et il avait reçu cette chose. Pour cette situation particulière, je n'en fais pas une généralité, mais que les gens avaient peut-être été dans des territoires où ils n'avaient pas allé. En tout cas, ce n'était pas le temps que Dieu avait choisi. Il ne leur permit pas, on pourrait dire, ben, pourtant ils allaient pour évangéliser, c'était bien. Eh bien, il ne leur permit pas, parce que ce n'était pas le temps. Donc faisons confiance, faisons notre part, acceptons d'être repris. C'est pour ça, faire notre part, c'est accepter d'être repris. Agir, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Moi, c'est quelque chose qui m'a travaillé dans ma vie personnelle. Tout ce qui n'est pas conviction est péché. Eh bien, agis avec conviction. Et des fois, je ne sais pas, et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui se passe, c'est que je voulais être conforme un peu à une image, machin. Comme ça, on est mieux, on cherche encore un retour. Si j'agis avec conviction et qu'à un moment, le Seigneur me convainc que là-dessus, ben, je n'ai pas tout compris, ça va m'humilier. Mais ce n'est pas grave, je vais grandir. Mais bon, il faut accepter d'être humilié. Nos convictions peuvent changer. Vous savez ça, on peut prononcer sur nos vies, moi, j'ai ces convictions-là, je ne changerai jamais. Oui, eh ben, ça peut bloquer même l'accès au salut. Moi, c'est comme ça. Moi, je suis breton, les bretons, et machin. Rigolez pas. J'étais jeune converti, je courais le long du canal à Saint-Grégoire, et à un moment, le Seigneur m'a pris par un élastique, comme les bretelles. Il m'a arrêté, il m'a fait revenir en arrière pour venir vers un homme. Et cet homme, dans sa conversation, me l'a appris, il sortait de prison. Mais je vais vous dire quand je l'ai appris. Je lui parle, il était sous le pont, mais on voyait bien que c'est quelqu'un qui était à la rue, mais depuis pas très longtemps. Et il m'expliquait sa situation, qu'une épouse, etc., puis que ça avait tourné en catastrophe. Il dit non, elle m'a fait ça, puis moi je suis un breton, alors moi je clac, c'est comme ça, machin. Et je lui dis, mais ça peut devenir une vraie prison, cette histoire-là. Ben, il me dit, écoutez, j'en sors. Il était sorti de la prison, mais pas de celle-là. Il y a des âmes qui peuvent être emprisonnées par des choses culturelles, des régionalismes et je ne sais quoi, et des fiertés ou familiales ou de nations, alors qu'il n'y a vraiment pas de quoi, bien souvent, si ce n'est dans le Seigneur. Psaume 121, l'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Alors, j'espère qu'à travers ces quelques mots, peut-être pas très structurés, mais je voudrais ces touches-là, quoi. Hein? Et en conclusion, je vous invite à lire deux passages très courts qui vont nous parler, qui vont nous dire comment Marthe a avancé. Dans Jean 11, versets 20 à 27, là, il s'est passé quelque chose. Lazare est mort. Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort. Il a attendu 4 jours. 4 jours, ce n'est pas rien. Les décompositions commencent du corps. Jean 11, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Ah, c'est intéressant d'ailleurs. Là, il n'y avait pas le Seigneur à la maison, mais Marie était quand même assise. Bon. Mais on ne s'occupe pas de Marie aujourd'hui. Hein. On ne s'occupe pas de Marie. Marthe dit à Jésus, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Alors, on se demande si elle ne fait pas encore un reproche. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, Marthe ? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. Et ça change la Marthe. C'est plus un prophète, c'est plus simplement un enseignant, c'est son sauveur. Et là, c'est véritablement son Seigneur. Et du coup, en Jean 12, verset 2, alors là, c'est très court, mais c'est très beau. Verset 1, six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qui avait été ressuscité des morts. Il aimait beaucoup cette maison. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Marthe ne survint plus. Marthe est entrée dans son service en paix. Elle est à sa place parce qu'elle a une vie de ressuscité, parce qu'elle sert son Seigneur. Elle fait tout comme pour le Seigneur. Et ses amertumes sont guéries par la révélation de Jésus. On va prier simplement. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu es celui qui nous guérit, qui nous restaure, Seigneur. Seigneur, de celui qui enlève tout ce qui est religieux. Seigneur, tu connais nos cœurs. Alors, Seigneur, nous te prions, nous voulons vraiment confesser ce matin que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui change nos vies, celui qui a porté nos péchés, celui qui nous libère du péché, celui, Seigneur, qui nous fait entrer dans notre destinée avec les talents, les dons, Seigneur, mais à ta manière, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce. Viens nous aider, Seigneur, dans notre communauté, dans nos vies familiales, dans nos vies professionnelles, Seigneur, à accepter, à vivre ce quotidien comme pour toi, Seigneur. Et nous savons que tu vas conduire nos vies, que tu vas diriger nos vies, que tu vas nous faire entrer, nous assembler, nous mettre à nos côtés, Seigneur, les hommes, les femmes dont nous avons besoin, parce que tu as donné à chacun selon la mesure du don de Christ, Seigneur. Nous avons tout ce qu'il faut, Seigneur, en toi. Tu nous as donné, nous sommes complets et tu nous aimes, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, je te remets vraiment notre vie à chacun, Seigneur. Que ce Seigneur qui ne te connaisse pas, qui cherche par leur propre force à te plaire ou à se plaire ou à se complaire en eux-mêmes, Seigneur, puisse s'effondrer devant toi et dire, Seigneur, maintenant prends ma vie, dirige-la, conduis-la. Je te loue et je te bénis, Père. Amen. Amen. Amen.